Je voudrais ce matin vous donner des choses pratiques. Hein, ces moments, avec ces 40 minutes, c'est simplement pour être très très concret. Et je pensais qu'il était utile pour chacun d'entre nous et pour ceux qui écouteront la cassette, il était utile de faire un peu un descriptif de la société aujourd'hui par rapport à ce que nous, les chrétiens, nous rencontrons, à ce que nous, les chrétiens, nous traversons. On se rend compte qu'il y a beaucoup de confusion et pour gagner du temps, je vais lire un article. Je vais lire un article qui a pour titre « L'Église face au défi de la postmodernité ». Vous savez que la modernité, c'était l'âge de la raison, la science, on pensait que la science allait régler tous les problèmes. Aujourd'hui, on découvre que notre société a beaucoup évolué. Et dans votre témoignage chrétien, si nous ne comprenons pas ces choses-là, nous ne serons pas efficaces. Alors, je vais vous le lire rapidement. Nous sommes tous conscients de profonds changements qui ont transformé notre société ces dernières décennies. Les gens réagissent tout différemment. Leurs centres d'intérêt se sont déplacés. Leurs jugements de valeur sont très différents des nôtres et toutes les normes logiques et éthiques semblent renversées. Le chrétien qui vit plus ou moins enfermé dans son ghetto évangélique est désemparé. Il voudrait annoncer l'évangile à ses amis et voisins, mais leurs réactions sont inattendues. Ils ne semblent préoccupés que par eux-mêmes ou pour eux-mêmes, et leur bien-être immédiat. Nos arguments les laissent indifférents. Tout est relatif, répète-t-il. Nous ne comprenons plus nos enfants et nos petits-enfants, et c'est réciproque. Outre les mots nouveaux qu'ils emploient, beaucoup de termes habituels ont pris un sens aux antipodes de celui que nous connaissons. Terrible, c'est dément, c'est diabolique. Sont devenus des éloges et des arguments publicitaires. Et ce n'est pas qu'une question de vocabulaire, car la structure même de la pensée est différente. Nos raisonnements « logiques » entre guillemets n'emportent plus la correction ni la conviction chez l'autre. Le sentiment et l'intuition parle plus que la raison. De tout temps, un fossé d'incompréhension a séparé les générations. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'un abîme s'est creusé à l'intérieur de toute la société, même entre des gens d'âge assez rapproché. Alors voyons les composantes de la postmodernité. Les sociologues affirment que nous avons passé de l'ère moderne à l'ère postmoderne, et que ce changement est aussi important que le passage du Moyen-Âge au temps moderne. Quelles sont les composantes de cette nouvelle société? Premièrement, l'individualisme. Je vis pour moi-même, je suis le centre et la mesure de tout. Chacun pour soi, et comme il n'y a plus de Dieu pour tous, les autres n'ont qu'à veiller sur eux-mêmes comme moi. Ce n'est plus la famille, l'Église, la société ou Dieu qui fixe ma destinée, c'est moi. Et moi seul. Dans le postmodernisme, on voit le paroxysme de l'individualisme moderne qui imite au terme de sa logique et s'éclate en tous sens. Glorifie l'empire de l'éphémère et se sent exister que dans l'intensité des plaisirs. Je souligne, et ne se sent exister que dans l'intensité des plaisirs. L'hédonisme, c'est le deuxième point, c'est-à-dire l'exaltation et le culte du plaisir. Puisque je suis le centre de mon univers, ce qui compte par-dessus tout, en fait, la seule chose qui compte, c'est mon épanouissement, mon bonheur, par tous les moyens et tout de suite. Cet impératif, deux corollaires pour éviter toute souffrance physique et morale et chercher tout ce qui fait plaisir. L'hédonisme, semble être la religion suprême des Occidentaux de notre siècle. Comme le corps peut être à la fois cause de souffrance et source de plaisir, la civilisation postmoderne, comme la civilisation antique, pratique le culte du corps. Un autre point, l'actualisme, c'est-à-dire la valorisation du moment présent. Je jouis et j'évite de souffrir aujourd'hui dans le moment présent. C'est la seule ce qui compte. Le passé et l'avenir, je m'en moque. C'est la notion du carpe diem, profite de ce jour, de l'instant qui passe. C'est la mort de la permanence et de la culture, de la providence ou de la quotidienneté. Bon, instillé par les médias, le règne de l'éphémère, du prêt-à-jeter et du provisoire. Une des conséquences est le refus des engagements dans le mariage, dans les églises et dans les missions. Le cynisme anti-autoritaire. Tout ce qui pourrait s'opposer à mon bonheur et mon épanouissement présent doit être éliminé. Institutions, lois, police, églises, gouvernement. L'ordre et les règles, c'était pour les bourgeois du temps passé. Pourquoi devrait-on rester avec le même conjoint pendant 40 ans? C'était bon pour l'époque passée où l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ou 40 ans. Et pourquoi seulement des couples masculins, féminins? La révolte contre toutes les structures institutionnelles et comme les lois naturelles découlent de les... La révolte contre toutes les structures institutionnelles et contre les lois naturelles découle de l'égocentrisme foncier qui se rebelle contre tout ce qui s'oppose à son épanouissement. Et si l'individu ne peut pas obtenir pacifiquement ce qu'il estime être utile à son bonheur, ce qu'il considère utile à son bonheur, ce qu'il considère juste et dû, alors il peut recourir à la violence. Nous assistons actuellement à une explosion de la violence dans tous les domaines, politique, professionnel, familial, etc. Il en découle une dévaluation de toute hiérarchie et l'absolutisation du pluralisme. Aucune tendance, aucune religion n'a le droit de se prononcer comme étant la seule vraie. On assiste également à une méfiance généralisée à l'égard de toute centralisation, que ce soit l'État, l'ONU, le Conseil œcuménique des Églises, etc., etc. Le cynisme de la génération postmoderne est en partie le fruit de la philosophie nihiliste de Friedrich Nietzsche, puisque Dieu est mort. Je n'ai de compte à rendre à personne et je peux tout me permettre par tous les moyens. Et encore un autre aspect, la dispersionnite et la dispersion maladive de l'attention sur une multitude de centres d'intérêt. Au cours de ces dernières décennies, les choix se sont multipliés à l'infini. Il existe par exemple des centaines de marques de shampoing et de dentifrice. L'hyper-choix, comme l'appelait Alvin Toffler, se répercute dans tous les domaines. Marques et modèles de voitures ou d'ordinateurs, style de vie, programmes de télévision, etc. Le fragment l'emporte sur tout, mais la surinformation empêche la compréhension, de sorte qu'il y a un fossé profond entre ce que l'on sait et ce que l'on comprend. D'où une incapacité de s'orienter et de faire entrer chaque nouvelle information dans un grand cadre. Le manque de concentration, la superficialité et l'indécision devant les choix sont des caractéristiques de la génération X grandie dans la société informationnelle. La masse d'informations contradictoires génère une grande capacité d'indifférence, seule possibilité de gérer l'ingérable. Il n'y a plus de normes communes à laquelle on pourrait se référer pour évaluer les idées, les opinions ou les choix de vie, ainsi tous se valent. Sur le plan religieux, les choix se sont aussi multipliés. À côté de la foi de nos prédécesseurs, on a aujourd'hui accès aux religions orientales, bouddhisme, taoïsme, confucianisme et toutes les sagesses africaines, indiennes, etc., avec lesquelles chacun peut se faire sa religion personnelle. Et on arrive à un autre aspect de la société actuelle qui est le relativisme. Le relativisme découle en droite ligne du point précédent. Puisqu'il y a tant d'opinions différentes, pourquoi l'une d'elles serait-elle meilleure? Pourquoi une religion serait-elle supérieure à une autre? De la diversité découle une notion particulière de la tolérance, le respect à titre égal de toutes les opinions et religions. Puisqu'il n'existe plus de vérité, chacun se fait sa petite vérité à la carte et sa convenance en morale, en religion, en mode de vie. Et les lois entérinent ce qu'une majorité déclare être vrai. L'avortement est une bonne chose. Pourquoi des couples homosexuels n'auraient-ils pas les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel? Et bientôt, l'euthanasie sera une solution à des problèmes épineux. Selon le plan religieux, nous risquons de nous laisser influencer par le relativisme ambiant où la confrontation a cédé devant la conciliation. Dans une société pluralisée comme celle du temps d'Akkab, ceux qui osent défendre la vérité et le caractère unique de la foi transmise au sein une fois pour toutes, eh bien, sont considérés comme des gens qui troublent Israël. La prédominance du sentiment et de l'expérience. Par ce trait, la postmodernité se démarque nettement de la modernité qui valorisait la raison par-dessus tout. La modernité était caractérisée par une foi en l'homme et en la science, clé du progrès et du bonheur, réponse à tous les problèmes. Le primat de la raison et de l'intelligence est un axiome de base que personne ne mettait en doute. Or, dans la postmodernité, c'est-à-dire actuellement, on a perdu la foi dans le progrès grâce à l'intelligence. Le sentiment a supplanté la raison, le plaisir a remplacé le devoir, et la spiritualité mystique du Nouvel Âge, par exemple, a chassé le positivisme religieux. Francis Schaeffer, qui est un philosophe chrétien, a bien caractérisé notre époque dans le titre d'un de ses livres « Démission de la raison ». Peu importe qu'une chose soit déraisonnable, si elle me plaît, si elle me convient et me fait chaud au cœur, elle est bonne. Le désordre peut être facteur de progrès. Picasso est mieux à l'homme moderne que les peintres classiques. Le cubisme, John Cage plaît plutôt que Bach ou Mozart. Après le classique, l'impressionnisme, le cubisme, nous sommes dans l'ère du n'importe quoiisme. En peinture, en art, etc., comme dans tout le reste des choix existentiels. Ce que recherche l'individu postmoderne, ce ne sont plus des vérités, mais des expériences, des sensations. Plus elles sont fortes, mieux cela vaut, quitte à se tuer en sautant à l'élastique. De la musique rock au tourisme, à la télévision et même à l'éducation, les impératifs de la société, comme les demandes des consommateurs, ne sont plus axés sur les biens, mais sur des expériences. Et en même temps, on assiste au retour du religieux. Une autre différence radicale de la postmodernité avec la modernité est ce qu'on a appelé le retour du religieux. On attribue à André Malraux la prophétie « Le XXe siècle sera mystique ». Les faits semblent lui donner raison. Louise Powell parlait de la ruée vers l'âme. Ernest Renan disait déjà que les dieux ne s'en vont que pour faire place à d'autres. Car, comme on disait autrefois, la nature a horreur du vide. Or, le vide se présente sous la forme du non-sens de toute l'existence. Mais l'homme supporte difficilement que sa vie n'ait aucun sens. Alors il se rue vers tout ce qui lui promet, vers tout ce qui lui promet une explication plus ou moins transcendante de son existence. Et comme il n'a pas envie de revenir vers le christianisme qui, à ses yeux, n'a pas répondu aux attentes de l'homme, il se tourne vers les sectes, 200 répertoriés en France, avec 200 à 400 000 adeptes, plus 750 000 pour les religions orientales. Les religions qui ont le vent en poupe sont celles qui sont les moins contraignantes, c'est-à-dire les spiritualités orientales qui cultivent le moi et contribuent au bien-être personnel tout en laissant une liberté totale. Comme aucune de ces religions ne peut prétendre à une vérité absolue, je peux bien prendre dans chacune d'elles ce qui me convient. Chacun bricole son cocktail religieux, un geste d'islam, un brin de judaïsme, quelques miettes du christianisme, un doigt de nirvana, toutes les combinaisons étant possibles, y compris pour être vraiment œcuménique, en ajoutant un rien de marxisme ou en se taillant un paganisme sur mesure. Mais peut-on parler d'un réel retour aux religions ? Religieux veut dire religare, relié. La religion est censée relier l'homme à Dieu. Mais cette religion faite maison, à qui ou à quoi sert-elle sinon à soi-même ? Alors maintenant, voilà la proposition sur laquelle on pourra peut-être prendre 5 minutes de discussion. Notre attitude face à la modernité. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens ? Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit, dit le psaume 11, ou pose la question, le psaume 11, verset 3, pose la question. Faut-il se résigner à la postmodernité, se replier sur la modernité, ou revenir à la pré-modernité ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Se replier, revenir en arrière, ou tout à fait en arrière ? Alors, donne des réponses. Pas de panique, nous conseille Henri Blocher. L'Église en a vu d'autres. Elle a été plus d'une fois confrontée à des hérésies et nous pouvons même apprendre certaines vérités de ce qui se passe aujourd'hui dans le postmodernisme. L'importance de la forme et du genre des textes bibliques, la diversité des lectures et des traditions culturelles, la méfiance entre les lunettes teintées avec lesquelles nous lisons la Bible, la dénonciation du rationalisme, de la modernité et des mécanismes d'oppression qui se cachaient parfois derrière la poursuite de la vérité. Mais dans l'ensemble, notre attitude sera commandée par la parole de l'apôtre Paul « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » Romains 12, 2. C'est bien la pensée qu'il s'agit de préserver de l'influence du monde actuel et de ses principes. Que faut-il faire par rapport à l'individualisme ? La parole de Dieu dit « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. » Romains 14, 7 à 8. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. « Car vous avez été rachetés à un grand prix, » dit Paul dans 1 Corinthiens 6, 19. « Aimez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, rendez-vous serviteurs les uns des autres, que chacun, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde ceux des autres. » Philippiens 2, 4. L'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir, la source du plaisir, l'hédonisme. La parole de Dieu caractérise la génération de la fin des temps en disant qu'elle aimera le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée 3, 4. À l'actualisme, c'est-à-dire les plaisirs immédiats, elle oppose une toute autre perspective. Voici ce que dit Paul. Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les réalités invisibles demeurent éternellement. 2 Corinthiens 4, 17. Notre présent est important, oui. Pourquoi? Tout particulièrement parce qu'il prépare notre jour éternel, notre avenir éternel. Les paraboles des talents et des mines le soulignent. Et maintenant, par rapport au cynisme anti-autoritaire, Paul répond en précisant que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 2 Corinthiens 14, 33. Et il demande que tout se fasse avec ordre. Dans la Bible, nous trouvons des principes relatifs au respect des lois de la création, le jour et la nuit, la hiérarchie esprit, âme et corps, des lois écologiques ou de l'ordre social, rendez à chacun ce qui lui est dû, le respect à l'honneur à qui il revienne. Romains 13, 7. Soyez soumis au roi comme à ses gouverneurs. 1 Philippiens 2, 14, 1 Timothée 6, 1. Elle nous demande de respecter notre prochain, que nous devons aimer comme nous-mêmes, sans empiéter sur ses droits, 1 Thessaloniciens 4, 6, et de nous soumettre aux lois que Dieu nous a données pour notre bien, les 10 commandements. Dieu en premier, le jour du repos, honorer les parents, le respect de la vérité, de la vie du prochain, de sa femme et de ses biens. Et enfin, il y a aussi une réponse à la dispersionnite. Jésus a opposé par ses paroles, une seule chose, a-t-il dit, est nécessaire. Faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses dont les païens se préoccupent vous seront données en plus. Matthieu 6, 33, cherchez, traduction normale, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Donc, priorité aux choses spirituelles. Rien n'empêche un chrétien de changer de fromage toutes les semaines ou plus souvent, mais sur le plan religieux comme sur le plan conjugal, un disciple de Jésus-Christ est un homme qui reste fidèle à son choix et ne le remet pas sans cesse en cause. Le baptême nous rappelle Paul, est un baptême en relation avec la mort du Christ, mort au péché et aux aspirations de l'homme livré à lui-même, afin que nous menions une vie nouvelle. Romains 6, 3. Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, le monde de l'homme pécheur a été crucifié pour moi, de même que moi j'ai été pour ce monde. Le baptême a lieu une fois pour toutes. Je n'ai pas à remettre constamment en cause la décision que j'ai prise en le demandant. Jésus s'oppose également au relativisme, sur le plan religieux comme sur le plan moral. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi, ou nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. À quoi l'apôtre Pierre fait écho en déclarant devant le Sanhédrin « Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » En un mot, une autre traduction, le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus. Donc, le seul nom, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, la seule personne, Jésus. Alors, ce n'est pas toutes les religions. Bon, ceci, alors il faut bien le reconnaître, dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné aucun autre nom, ce qui est une intolérance intolérable pour le monde actuel. Sur le plan moral, Paul également est clairement fixé les limites. Voici donc ce que je vous dis, écrit-il, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. La vie de l'un des plus illustres théoriciens du postmodernisme, Michel Foucault, est une poignante illustration de la vérité de ses paroles. Parvenu au fait de l'intelligentsia française, attirant des centaines de disciples par ses cours au Collège de France, mort du sida contracté dans les saunas homosexuels de Californienne. Mais vous, continue Paul, Ce n'est pas ainsi que vous, avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Le sentiment et l'expérience, enfin, c'est le dernier point, le sentiment et l'expérience ont leur part dans la foi chrétienne. Et l'évangélisme s'est souvent montré trop tributaire de la modernité en exaltant la raison et l'orthodoxie de la croyance par-dessus les aspects émotionnels et engagés d'une vie chrétienne totale. Mais la révélation s'adresse quand même en premier lieu à notre raison. Jésus a enseigné les foules. Il a demandé à ses disciples, « Avez-vous compris ce que je vous ai dit ?» Matthieu 13, 51. Paul disait aussi, « Je me suis fait tout à tous, afin de gagner de toute manière quelques-uns. » Les changements dans la société ambiante ne nous dispensent pas d'apporter l'Évangile à nos contemporains postmodernes. Ils sont un appel à adapter sa présentation afin de répondre à leurs besoins d'une manière appropriée à leur mentalité et leurs aspirations d'aujourd'hui. Alors, bon, c'était un peu long, c'était peut-être un peu compliqué, mais je résume simplement les trois pensées, puis peut-être on va avoir un petit peu, on va vous demander votre opinion. Il y a donc, je résume, la postmodernité, c'est la civilisation, la façon de penser, la façon de raisonner, la façon de vivre actuellement de notre génération. Et comme nous l'avons lu, il y a une rupture. Les parents ne comprennent plus les enfants ne comprennent plus les parents. La société de tout genre, de toute façon, de préoccuper, par exemple, les homosexuels, le droit de le pacte, et tout, enfin, tout ce système de vie que je viens de lire, eh bien, est tout à fait normal pour beaucoup de gens. Et la multiplication des religions, la multiplication des expériences, la multiplication des moyens de vivre des expériences, etc., eh bien, le pluralisme religieux aussi fait que on vous dira, quand vous témoignez, mais il y a Bouddha, mais il y a l'islam, mais il y a ceci, mais il y a cela. Nous sommes donc confrontés à cela. Alors, il a été question de l'individualisme. Il est clair qu'aujourd'hui, les gens sont très individualistes. Et, il faut le reconnaître, c'est rentré dans l'Église aujourd'hui. Vous savez que la pensée de Dieu n'est pas votre salut, le mien individuellement seulement. La pensée de Dieu, c'est former un corps pour son fils qu'est l'Église. Et donc, la vision de Dieu, les dons spirituels, les capacités sont données au corps et non pas à l'individu. Or, quand vous regardez le dérèglement qui s'est installé dans le christianisme, moi j'ai besoin d'eux, je vais être heureux, j'ai des droits, en Jésus-Christ j'ai des droits, c'est l'individualisme qui de plus en plus a pris, vous pouvez le regarder, quand l'Église, vous savez, les jours de la semaine sont tous les mêmes aux yeux de Dieu, hein, l'apôtre Paul dit qu'on ne juge pas sur une journée, parce que les jours sont les mêmes, mais quelle est la valeur du dimanche, en plus de la commémoration de la résurrection du Seigneur Jésus, puisque le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, mais aux yeux de la grâce de Dieu, ça n'a pas plus de valeur, si ce n'est la valeur de la résurrection. Alors, quelle est la caractéristique du dimanche? C'est de se retrouver ensemble devant Dieu. C'est de se retrouver ensemble, famille. Nous avons la marche chrétienne chaque jour dans nos familles, dans nos vies personnelles, à la maison, dans la vie courante de la semaine. Mais la raison du dimanche, c'est que maintenant, c'est ensemble. C'est le corps qui adore, c'est le corps qui sert Dieu, ensemble dans la complémentarité et dans l'unité. Ça vous montre que là aussi, ça a pris un bon coup, l'individualisme a pris un bon coup. Et puis, il y a l'hédonisme. L'hédonisme, c'est l'exaltation et le culte du plaisir. Je suis le centre, l'être humain est devenu le centre, je cherche le plaisir. Regardez, ouvrez la télé, regardez les programmes, regardez tout. C'est le plaisir. Et malheureusement, on voit que quand vous voyez les jeunes ou quand vous voyez dans le niveau de la moralité, voilà, les gens ils vivent comme des bêtes, un plaisir assouvi immédiatement. Et on arrive à l'actualisme, c'est-à-dire les gens ne pensent plus Et c'est le grand problème aussi des chrétiens. On veut être heureux maintenant, on veut vivre maintenant, qu'on oublie que la raison d'être finale, la raison d'être à la base du christianisme, c'est de nous préparer pour l'au-delà. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Hein. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Aujourd'hui, le christianisme est devenu, oui, j'ai droit en ceci, la bénédiction, la prospérité, la protection. En un mot, le christianisme est pour maintenant. Et on ne se transforme pas, on vit pour soi-même, on devient égocentrique. Alors que réalité, le travail de Dieu est de nous préparer par toutes sortes de circonstances, on en parlera tout à l'heure, en bas au culte, et bien de nous préparer à l'au-delà. Votre trésor n'est pas sur la terre, mon trésor n'est pas... Le christianisme met l'accent sur le trésor qui est dans le ciel. À quoi servirait de gagner le monde entier si je perds mon âme? Or, ça aussi, ça a glissé. Regardez les programmes. Je vais prendre un exemple. Vous organisez une soirée de jouissants. Prenez un bon groupe musical. Une bonne comédie musicale chrétienne. Vous remplissez la salle. Organisez un camp de travail pour la mission, vous n'avez personne. C'est comme ça. C'est le christianisme aujourd'hui, et ce n'est pas seulement. C'est partout. Le plaisir immédiat, maintenant, je vous jure. Et on a fait de l'Église, la religion chrétienne, une religion de jouissance à notre tour. Alors que le but de Dieu, c'est nous apprendre à renoncer à nous-mêmes pour préparer la gloire de Dieu et faire avancer le royaume de Dieu. Donc, l'actualisme, il y a également le cynisme anti-autoritaire, j'en ai parlé, hein. Tout ce qui s'oppose maintenant à ma liberté, je suis libre, je suis majeur, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est la démocratie, etc., etc., eh bien, on refuse l'autorité. Autorité, regardez voir, les gens, aujourd'hui, pour être patron dans une boîte, il faut vraiment être accroché. Je dirais aujourd'hui, franchement, pour être pasteur, il faut avoir un appel, sinon, vous devenez cardiaque. Les gens ne supportent plus l'autorité. Les familles ne supportent plus l'autorité. Les enfants devenus grands ne supportent plus l'autorité. C'est le cynisme anti-autoritaire. Alors, il y a la dispersionnite aussi, j'en ai parlé, c'est l'incroyable nombre d'informations. Je ne sais pas comment vous faites, mais notre tête n'est pas assez grande pour tout digérer. Ça vient de partout, de tous les milieux, de tous les... Rien que dans le domaine chrétien, des piles d'informations vous reçoivent chaque jour. C'est passé. Des invitations pour ci, des trucs par là, des projets, des séminaires ici, des prophéties par là, des trucs par ci, des trucs par là. C'est déjà dans le monde. Regardez, on découvre un ordinateur, deux jours après, on en a un autre. C'est la valse de la surinformation. Et quand ça se passe, les gens n'ont plus le moyen, n'ont plus les moyens de contrôler, voire même de comprendre. Ça rentre tellement, il y en a tellement qu'à un moment donné, on se lasse. Et on devient quoi? Et je l'ai dit, lu tout à l'heure, on devient indifférent. Puisqu'on ne peut plus, on s'en fout. Et ça veut dire qu'on nous fait avaler toutes les couleurs possibles parce que les gens sont devenus indifférents. Dans les médias, en tout, regardez les médias, nous donnent n'importe quoi, dans un truc, vous ne pouvez plus vérifier. Alors, on laisse. C'est la dispersionnite. Hein? Et puis, il y a aussi un autre point, le relativisme. Puisqu'on ne sait plus, puisqu'on ne peut plus, puisqu'on est dépassé, puisqu'il y a 36 opinions maintenant, pourquoi pouvez-vous dire que celle-là, elle est juste et que l'autre, elle est fausse? Puisque celui-là, il a du succès, puisque ça, ça marche, puisque ceci, ça marche, puisque nous sommes au temps des expériences et du rendement, ce qui marche, ce qui fait plaisir, ce qui me donne de la joie, c'est ce qui est juste. Donc, le critère n'est plus la justice selon la logique de la raison, voire même de la nature humaine, des lois de la nature humaine, mais ce qui est juste, c'est ce qui plaît à la majorité. Donc, si la majorité est pour l'homosexualité, ça passe. Si la majorité est pour l'avortement, c'est juste. La notion de justice a totalement dévié et on appelle ça le relativisme. Tout est relatif. Pourquoi pouvez-vous dire que la religion chrétienne est la seule religion? C'est faux. C'est de l'orgueil. C'est sectaire. Comment pouvez-vous dire que l'islam n'est pas bon alors qu'il y a des méchants, il y a des islamistes intégristes, oui, mais il y a aussi des bons. Ça, Ça, c'est une bonne... excusez-moi, mais ça, c'est une bonne méthode de récupération. Parce que le Coran est très clair. Bon. Il y a peut-être des musulmans très corrects. Il y a peut-être des bouddhistes. Quand on vous parle de la méditation... Oh, quel... Hein, quel le, comment il s'appelle, le chef du bouddhisme, là, qui vient à Grenoble, qui est reçu à la fac. Très calme, hein, très reposant. Quel rayonnement. Quelle bonté. Alors pourquoi voulez-vous que le christianisme soit ailleurs quand on regarde le nombre de bagarres qu'il y a au milieu des chrétiens? Alors que le bouddhisme, confucianisme, qui prêche la mort à soi, la mort à soi-même, le repos en Dieu. Pourquoi prétendez-vous que vous, chrétiens, vous êtes meilleurs? Pourquoi prétendez-vous que vous, chrétiens, que c'est Jésus le seul chemin? Alors qu'il y a 36 religions et le petit Inca, hein, et le petit Pygmé dans l'Afrique. Alors, vous prétendez que parce qu'il ne connaît pas Jésus, il est perdu. Mais vous êtes des secteurs, vous êtes des criminels, vous êtes des culpabilisants, vous êtes des orgueilleux. Toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. C'est notre société aujourd'hui. Et si vous commencez à témoigner un peu fort, vous allez voir ce qui va nous arriver. Les problèmes de la colonie, les colonies d'enfants. Vous savez maintenant, la caisse d'allocation familiale, vous savez ce qu'elles écrivent? Si votre colonie n'est pas laïque, les parents n'auront aucun soutien pour la caisse d'allocation familiale. C'est en France, ça. Faut se réveiller, c'est en France. L'année dernière, des parents, on leur a refusé les bons de vacances parce qu'ils étaient dans un camp chrétien. Or, normalement, jusqu'à présent, un camp... avaient les possibilités, n'importe que ce n'était pas la religion qui rentre en jeu, c'était les normes éducatives. Il fallait que les moniteurs aient des diplômes, que les directeurs aient des diplômes, et ça c'est juste. Mais maintenant, vous avez beau avoir les diplômes, vous avez beau tout, si votre camp est chrétien, niet, plus d'allocations, vacances. Vous savez, la vie se tourne. Alors, alors, enfin, le relativisme. Bon, et la dernière chose, la prédominance du sentiment et de l'expérience. C'est vrai. Le sentiment, on veut s'en dire. C'est vrai que la foi chrétienne ne doit pas seulement être basée sur la raison, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous demande pas d'être dingos pour devenir chrétien. Et Dieu ne nous demande pas d'être dingos pour vivre des expériences avec lui. La parole de Dieu montre que Dieu est un Dieu d'ordre, de bienséance, nous demandant de nous faire tout à tous pour gagner le maximum. Nous avons des pensées à purifier, à changer, à nettoyer. Ça, c'est clair. Mais la foi chrétienne, c'est aussi la récompense de la foi, c'est d'expérimenter ce qu'on croit. Donc, il est clair que ça aussi, la foi chrétienne doit être aussi une religion d'expérience réelle, selon la parole de Dieu. Mais nous vivons un monde où n'importe quoi peut être expérience. Faire hurler les décibels de la musique pour que ça rentre, ça frappe nos nerfs auditifs, ça frappe notre psychisme, ça frappe notre être intérieur, ça frappe nos mécanismes en profondeur. La rupture de l'harmonie normale musicale en renversant les harmonies classiques pour amener des chocs vibratoires dans notre système sanguin, ça c'est des trucs qui maintenant se font couramment. Expérience, manifestation. La drogue, bien sûr, la drogue, le sexe, etc., etc. Avez-vous déjà réfléchi? On parle beaucoup de la lutte contre la drogue. Mais il suffirait que les gens ne prennent plus de la drogue pour que tout soit réglé. Pourtant, ils la prennent. De plus en plus la prennent. Expérience. Expérience. Il y a des jeunes qui disent, mais moi, je m'en fous. Je veux vivre, même si je meurs dans quelques temps. Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a une dizaine de suicides par jour en France, jeunes. L'expérience, vous savez, vous avez vu dans les écoles l'histoire du foulard qui faisait pour faire aller le gars jusqu'à l'inanimation, il y en a qui sont morts. Hein. Expérience. Quand vous voyez des gourous qui font des trucs, quand vous voyez toutes sortes de religions, des positions, d'expérience. Vous savez, par exemple, je prends le cas du... pas du judo, du... On appelle ça le... Méditation tendance... Comment on appelle le... Eh bien, les positions physiques que vous prenez, qu'on vous dit que c'est de la relaxation, sont en réalité des positions venues de l'Orient, qui sont des positions du corps incantatoires pour appeler les esprits correspondants. Nous, on nous dit que c'est de la relaxation, mais spirituellement, c'est appeler des démons. Mais tout ça, ça passe. Ça passe dans les écoles, ça passe dans les trucs, ça passe. Pourquoi ? Parce qu'on a l'expérience d'un bien-être. Ah, je me sens bien après, je me sens le repos, je me sens bien. Mais quand vous imposez les mains à un gars comme ça, il faut voir le démon qui se manifeste. Alors, il est l'ami. Je voulais simplement lire ça pour vous montrer l'enjeu dans lequel nous vivons aujourd'hui, rapidement, pas le temps. Mais que ça puisse vous faire comprendre que la seule façon de répondre à cela, pour nous chrétiens, c'est de savoir réellement en qui je crois. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas rencontré le Seigneur, tu ne tiendras pas. Tu seras emporté par les raisons, tu seras entraîné par les fausses expériences, tu seras entraîné par les rudiments de ce monde. Si ton cœur est partagé, un pied dans le monde, un pied, tu ne tiendras pas. Tu seras emporté encore. C'est pour cette raison que face à la boue ambiante, face à tout ce qui est remis en cause, tout arbre, dira Jésus, que mon Père n'a pas planté, sera déraciné. Notre seul moyen de tenir le coup, au lieu de se recroquer sur soi-même, notre seul moyen, c'est de s'engager à fond pour Jésus. À fond pour lui. Si tu es tiède, tu ne tiendras pas. Rappelez-vous les vierges sages, les vierges folles. C'est les seuls moyens, alors, face à l'hédonisme, face à la sainteté de Dieu, le service de l'autre, face à l'individualisme, enfin, je les ai rappelés, je ne vais pas le rappeler encore. Je vous ai lu les réponses de la parole de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tout à l'heure, dans le culte, prédication, je voudrais partager quelque chose qui sera aussi une réponse, qui sera tout autre. C'est le texte sera ce matin, que Dieu nous aime, Dieu vous aime, comme il aime Jésus. Très peu de chrétiens savent cela ou osent le croire en profondeur. C'est pour ça qu'ils font de la dépression. C'est pour ça qu'ils ont des malaises. C'est pour ça qu'ils sont frustrés. Ils croient intellectuellement en l'existence de Dieu, mais dans leur cœur, ils ne croient pas en profondeur que Dieu les aime autant qu'il aime Jésus. Il y a des textes de la Bible, on en parlera tout à l'heure. Mais si on capte ça, si on sait ça, et qu'on ose croire que dans toutes les circonstances de ma vie, Dieu m'aime autant que Jésus. Comme il a aimé Jésus dans sa vie, il m'aime de la même façon. Alors rien ni personne ne peut nous ravir. Et nous serons dans le repos. Le problème de la dépression, c'est une absence de repos. Et la raison de l'absence de repos, ce qu'on n'a pas eu, c'est qu'on ne connaît pas, on n'a pas osé croire à cet amour de Dieu. Pour moi, le même amour que Dieu a pour son Fils. Comme le Père m'a aimé, il vous aime.